Actuellement, les phénomènes les plus courants sont des phénomènes qui sont en lien avec ce que l'on appelle l'ingénierie sociale. Pour les entreprises, on pourra citer par exemple l'escroquerie au président ou l'arnaque au président. Qui consiste en fin de compte pour des personnes malveillantes à tenter de faire opérer un virement sur un compte tiers en induisant les personnes de l'entreprise donc en erreur.
Le cas de la société Uber qui a vu les données de ses clients piratées rentre dans quelle catégorie ?
Alors le cas de la société Uber qui voit ses données piratées, là on a vraiment affaire à une infraction informatique au sens strict puisqu'on a alors, on ne sait pas quel est le mode opératoire. Possiblement, un accès indu au système informatique, puisque en fait, quelqu'un a dû s'introduire dans les systèmes de l'entreprise pour récupérer ses données. Et puis ensuite, on a de la soustraction de données. Donc, on est quand même là déjà, évidemment, dans les phénomènes liés à la cybercriminalité. Et visiblement, là derrière, il y a encore eu du rançonnage, puisque on apprend que l'entreprise a finalement versé un certain montant pour éviter que ces données ne soient divulguées.
Ah, donc c'est des histoires de chantage, en fait, hein.
C'est fréquemment des histoires de chantage. Il faut bien se rendre compte que pour les cybercriminels, faire chanter les entreprises en les empêchant soit de réaliser leurs activités opérationnelles habituelles, soit en portant atteinte à leur réputation, c'est un business florissant. Prenez par exemple le cas de ou la possibilité d'entreprises qui ont des sites marchands, donc des sites internet sur lesquels vous pouvez acheter des produits divers. Si on arrive à bloquer l'accès à ces sites et ensuite à demander une rançon, il y a de bonnes chances pour que l'entreprise tergiverse en la matière puisqu'elle ne veut pas perdre une journée, deux journées, trois journées de chiffre d'affaires.
Alors si on prend l'exemple d'un employé qui change de travail mais qui garde les numéros de téléphone et les adresses de clients qu'il avait pour son nouvel emploi, est-ce qu'on peut déjà parler de cybercriminalité ?
Alors, lorsque l'employé utilise les données de l'entreprise dans le cadre de son activité, il est tout à fait fondé à le faire. À partir du moment où il quitte l'entreprise, à moins qu'il y ait des raisons qui aient été convenues avec son employeur, il n'est pas censé conserver ces données. Le fait de récolter des données, c'est plutôt là de la soustraction de données. Donc, ça veut dire qu'il va prendre des données à ses propres fins et les exploiter. Évidemment que là, on est déjà dans des pratique, on va dire, déloyale par rapport à son employeur. Il a un devoir de loyauté, hein, c'est dans son contrat de travail, et il y porte possiblement atteinte de cette manière.
Donc on peut être poursuivi pour ça ?
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas que les milieux des affaires et de l'administration qui sont victimes de cybercriminalité, ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde. Les attaques les plus connues sont le vol d'identité ou encore l'arnaque au sentiment. De quelle manière est-ce qu'on peut encore être touché ?
Alors, au niveau des particuliers, on a, outre les malwares, donc les logiciels malveillants, j'ai parlé tout à l'heure du rançonnage, vous avez probablement entendu parler des fameux ransomware dont on parle de plus en plus depuis maintenant bien une année, deux ans. Ça, c'est un phénomène qui touche les particuliers également. Donc c'est le fait de ne plus avoir accès à ces données personnelles hein, sur l'ordinateur, elles sont cryptées ou leur accès est bloqué, puis on va là de nouveau devoir payer quelque chose pour pouvoir accéder à ces données. Et puis ensuite il y a tout l'ensemble des escroqueries, et les escroqueries que vous allez rencontrer dans la vraie vie, eh bien vous allez aussi pouvoir les retrouver sur internet, et alors là les cybercriminels sont extrêmement créatifs.
Et lorsqu'on achète du matériel électronique, on nous conseille toujours de prendre un antivirus, mais est-ce que c'est réellement utile face à ça ?
Bien sûr que c'est utile, et c'est même essentiel, mais ça n'est pas suffisant. Pour prendre une image, si vous achetez un véhicule récent, vous aurez un véhicule qui répond à toutes les normes de sécurité. Ça ne va pas vous empêcher de vivre des incidents sur la route. Donc d'avoir des accidents, d'avoir un accident, ou bien de voir votre véhicule endommagé d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose en informatique. Il faut avoir un matériel adéquat, un logiciel adéquat, mais ça n'est pas suffisant. On a besoin d'ajouter à cela une éducation qui passe justement par l'information et la formation. C'est ce que nous avons l'intention de faire ce soir en termes d'information, et c'est aussi ce que nous proposons en termes de formation à l'ILC à Neuchâtel, avec des formations grand public en la matière. Et puis ensuite, il y a encore un élément essentiel, c'est tout simplement les comportements. Il ne suffit pas d'avoir le bon matériel, il ne suffit pas d'être bien éduqué, il faut aussi, alors si on est bien éduqué, si on a une bonne formation, on va avoir tendance à se comporter de manière adéquate, mais il ne faut pas oublier de se comporter de manière adéquate. C'est comme dans la vraie vie, encore une fois, c'est comme quand on va se promener dans la rue le soir ou lorsque l'on va dans un événement, il y a des codes de comportement, on va dire, qui font qu'on va plutôt avoir tendance à éviter de se retrouver dans des situations ambiguës ou difficiles. Ben, en informatique, c'est la même chose.
Si vous deviez en nommer quelques-uns de ces comportements à voir, ce seraient lesquels ?
C'est par exemple lorsque vous recevez un courriel d'une personne que vous ne connaissez pas, tout d'abord de vous poser la question, avant de l'ouvrir et avant d'ouvrir éventuellement les pièces jointes qu'il contient, est-ce que vraiment ça m'est utile ? Est-ce qu'il est nécessaire que j'ouvre ce courriel ? Par exemple, si vous recevez un courriel de votre banque. Mais ça peut être également si vous recevez un courriel d'un de vos amis, mais que le langage, le texte écrit semble un petit peu particulier, de vous poser la question si c'est vraiment judicieux que vous ouvriez ce courriel, parce que finalement, ça n'est peut-être pas lui qui vous a envoyé ce message.
Finalement, pour les spécialistes de la cybercriminalité, quels sont les défis d'aujourd'hui face à des criminels, vous l'avez dit, toujours plus créatifs ?
Alors je dirais que on a l'habitude de réagir dans ce domaine et là maintenant il faut que nous commencions à anticiper. Donc il faut comprendre que les cybercriminels sont des créatifs. C'est pas seulement des gens qui exploitent des failles et qui découvrent des moyens de récupérer de l'argent. Ils sont créatifs, ils innovent eux aussi et nous devons nous aussi innover en la matière pour prévenir ces différents phénomènes. Et un des axes essentiels à mon avis à ce niveau-là, c'est d'une part de rendre l'industrie attentive, donc l'industrie qui produit les outils que nous utilisons au jour le jour, de les rendre attentifs au fait que la sécurité informatique fait partie du cahier des charges des produits, ce qui n'est actuellement trop souvent pas le cas. Et puis l'autre élément, c'est d'éduquer tout le monde, donc l'ensemble de la population, aux risques qui sont liés à ces différents phénomènes, pour qu'ils soient aussi capables d'anticiper, de réagir face à des situations qui n'auraient peut-être pas été expliquées à l'avance, mais qui comprendront face aux différents éléments qui vont se présenter à eux, qu'il pourrait s'agir là d'un acte malveillant ou d'une attaque.